belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance.
Vous suivez Radio de la Paix et à l'instant c'était Grand Corps Malade avec le titre Handicapé. On entend souvent parler de l'autisme, on en est parfois loin, mais il arrive des fois où cette situation, on la vit directement. Et selon les données, l'autisme touche environ un enfant sur 150 aujourd'hui dans le monde et 4 fois plus les garçons que les filles. On retrouve beaucoup plus de garçons que de filles atteints d'autisme. Et en Côte d'Ivoire, on trouve également des personnes autistes. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a autour d'elles des hommes et des femmes attentionnés qui luttent pour faire changer la perception de la société à l'endroit des autistes. Mais qu'est-ce que l'autisme réellement? Est-ce une maladie? Est-ce une déficience mentale? Est-ce un handicap? Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans ce studio Liliane Yapi. Liliane Yapi, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes à la tête d'une association, d'une ONG qu'on appelle Je suis toi. C'est
monsieur.
Le nom de l'ONG.
Monsieur.
Alors, je suis toi. Monsieur. Alors, pourquoi je suis toi?
Je suis toi parce que nous sommes tous égaux. Je suis toi parce que le monde est fait de différences. Je suis toi parce que nous ne pouvons pas tous être hommes ni femmes. Je suis toi parce qu'il y a des courts, il y a des grands. De même manière qu'il y a des clairs et des noirs. C'est pour cela qu'il y a des personnes autistes, il y a des personnes albinos, il y a des personnes trisomiques. Je suis toi parce qu'aujourd'hui, il est temps de jeter des regards négatifs sur les personnes autistes, sur les parents d'enfants autistes.
Mmh. Il est temps d'arrêter de jeter ce regard négatif.
Le regard négatif,
voilà.
Exactement.
Et puis, avec nous, nous avons également un éducateur spécialisé. Il s'occupe de tout ce qui prend en compte le domaine du handicap. C'est Biekwa Kwasi Gérard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci, monsieur.
Alors, vous êtes éducateur spécialisé.
Oh oui.
Et vous faites quoi d'autre autour de cette question-là?
Merci beaucoup. Je suis Biekwa Kwasi Gérard, éducateur spécialisé. Et j'aimerais dire que, en tant qu'éducateur spécialisé, nous agissons sur le développement humain. Et parlant de développement humain, ça tient compte de la prise en charge de la personne à plusieurs niveaux. Mmh. Quand on parlera des enfants, des personnes vivant avec le handicap, ou même des personnes âgées, ou des personnes ayant des difficultés d'intégration sociale. Voici un peu ce que l'éducateur spécialisé et à mesure d'accomplir.
C'est bien noté. Et au téléphone, nous avons aussi une intervenante. Elle est également à la tête d'une ONG qu'on appelle Sillon d'Espoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu à écrire un livre sur la question de l'autisme. « Quand mon chemin croise l'autisme ». Elle se nomme Nicole Gallo. Alors, comment vous allez ce matin ?
Je vais très bien, monsieur.
Merci. Ok. Et on parlait de votre ONG Sillon d'Espoir et
oui,
également
j'ai une ONG dénommée ONG Sillon d'Espoir.
Oui.
Qui vous en soutient aux enfants autistes.
Et puis aussi du livre que vous avez écrit sur le sujet. Le livre, c'est « Quand mon chemin croise l'autisme ». C'est cela ?
Oui, tout à fait.
Ok. Alors, merci d'être avec nous. Ensemble, on va participer à cette émission-là, donner des éléments plus clairs sur la question de l'autisme. Et puis, nous avons à juste titre avec nous un spécialiste, un éducateur spécialisé en la personne de Biekwa Kwasi Gérard. Alors, la première question, c'est de savoir, c'est quoi l'autisme ? Est-ce que l'autisme est une maladie ? Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que l'autisme est une déficience ou une insuffisance neurologique ou mentale ? Donc, on va commencer ici en studio avec Liliane Yapi. Selon vous ?
Selon moi, l'autisme n'est pas une maladie parce que c'est juste un handicap. C'est un peu comme toute autre personne. Vous faites peut-être 1m30, vous devez prendre peut-être une tasse sur... une table qui est en hauteur de 1m60, à l'instant même, vous êtes en situation d'handicap.
Ouais.
C'est pareil pour la personne autiste. La personne autiste a du mal à interagir. C'est de l'aider à pouvoir se socialiser. Je pense que peu importe le nombre de médicaments que vous allez lui donner, à l'instant même, ça ne va pas régler sa situation. Ce qui veut dire que ce n'est pas une maladie. Une maladie, quand tu prends un médicament, tout de suite, ta maladie, tu guéris de la maladie.
Ouais.
Par contre, un handicap, c'est quelque chose... Qui est sur vous et avec le temps, soit ça s'améliore, mais ça ne disparaît pas, ça fait partie de ta personne en fait. C'est comme l'autisme, tu nais autiste, tu meurs autiste. Mm-hmm. Par contre, une maladie, quand tu as une maladie, on te donne un cachet, deux cachets, et tout de suite tu es guéri quoi.
Ok. Alors, la même question à Nicole Gallo qui est avec nous au téléphone.
Bon, en tant que mère d'un enfant autiste, moi je ne suis pas un agent de la santé. J'ai appris avec le trouble autistique de mon fils et dans mes recherches, je me suis rendu compte que l'OMS, qui est une organisation mondiale de la santé, ne classifie pas l'autisme comme maladie.
Mmh.
Voilà. Donc pour moi, à partir de là, je me suis dit que c'est pas une maladie, c'est une situation d'handicap, mais ça reste quand même une maladie si on le veut. Mais voilà, pour moi, j'ai vu des personnes, des enfants qui se sont en sortis. Donc si on s'en sort de l'autisme, c'est qu'il y a de l'espoir en tant que parent autiste. Donc ça peut se guérir. Donc si ça peut se guérir, c'est une maladie.
On va maintenant se tourner vers le spécialiste, Biekwa Kwasi Gérard. C'est quoi l'autisme ?
Merci beaucoup de me donner la parole. Déjà, je veux féliciter ces mères qui ont pris cette initiative-là de pouvoir aller jusque-là où elles en sont pour faire part à la population et de l'action autour de l'autisme. Et l'autisme, comme l'a dit ces mamans, n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un handicap. Or, nous savons que le handicap, c'est une situation invalidante dans laquelle peut se trouver une personne. Et donc... Il faudrait savoir que l'autisme étant un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé trouble du spectre autistique. Vous verrez souvent TSA, trouble du spectre autistique. Voilà. Et donc, c'est un trouble neurodéveloppemental.
Ce spectre autistique, c'est ça ?
Oui.
Où est-ce qu'on le trouve ?
Ce spectre autistique, c'est l'appellation qui est donnée parce qu'il y a plusieurs formes d'état autistique.
Okay.
Donc, on parlera de l'état Asperger. On parlera aussi d'autres états, le Rett, qui sont des états autistiques. Donc, tout est globalisé sous l'appellation nouvelle qu'on appelle spectre, trouble du spectre autistique.
Ok.
Voilà.
Donc, on retient que l'autisme n'est pas une maladie.
Ce n'est pas une maladie. C'est une situation invalidante et qui se corrige. Comme l'a dit cette maman tout à l'heure, elle a vu des personnes être guéries en griffe. Parce que c'est une rééducation fonctionnelle dont tu as besoin toute personne qui vit dans cette situation. Je dirais une personne qui a un bras amputé, on ne dira pas qu'elle est malade. Voilà, elle a quelque chose qui ne fonctionne pas à son niveau. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça qu'une personne qui vit le trouble autistique se trouve. Et donc, il faut des mesures d'accompagnement pour sortir cette personne-là de cet état. Mmh. Et donc, à ce sujet-là, il y a des personnes ressources qui font ce travail. Parce que quand on parle de trouble neurodéveloppemental, cela demande une certaine compréhension, tant sur l'aspect psychologique, tant sur l'aspect médical. Et donc, nous, en tant que professionnels de la santé, éducateurs spécialisés, nous travaillons en jumelant ces deux aspects, psychologique et médical, pour apporter une réponse aux besoins des personnes vivant avec ce trouble, ce handicap.
Et pourquoi c'est important de faire cette fusion-là, d'apporter de la psychologie et puis aussi, comme vous l'avez dit, l'aspect médical?
Merci beaucoup.
Pourquoi est-ce que les deux aspects se rejoignent?
Parce que ces deux aspects se rejoignent dans la mesure où la prise en charge est holistique. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge médicale, il y a une prise en charge éducative et il y a une prise en charge même pédagogique. Mm-hmm. Parce que l'enfant doit évoluer comme tout autre enfant.
Donc une prise en charge à plusieurs niveaux.
À plusieurs niveaux, voilà. Mm-hmm. Et donc, il faudrait que nous puissions savoir que cette prise en charge sera efficiente si les parents ou les personnes à charge de ces personnes-là s'investissent pour le bien-être de cet enfant. Voilà, donc on dira que c'est un peu coûteux. Ça coûte pas forcément à cause de l'argent, mais à cause des démarches à suivre. Cela est fait
c'est
de la
sorte. C'est beaucoup exigeant.
C'est exigeant.
Ok. Alors, on reviendra sur plusieurs aspects avec vous, beaucoup plus techniques, okay. Spécifiques aussi pour mieux comprendre ce trouble qu'est l'autisme. Mais on aimerait bien avoir des informations sur votre histoire. Par exemple, Liliane Yapi, puisque votre enfant est autiste, et à quel âge est-ce que vous détectez cela?
Merci, monsieur. Il faut dire que c'est à 2 ans. Nous, on était plus focalisés sur le retard de langage. Et c'est ce retard de langage-là qui nous a amené à aller voir des spécialistes. Sinon, normalement, l'enfant avait déjà des signes de l'autisme. Mais par ignorance, bon, vu qu'on ne connaissait pas les signes, on a laissé tomber. Et jusqu'à 2 ans, comme il ne parlait pas, nous sommes allés voir son pédiatre. Il nous a demandé d'aller voir un ORL. Et c'est arrivé chez l'ORL, ils ont fait des tests, ils ont vu bon, que l'enfant entend. Parce que pour pouvoir parler, il faut d'abord entendre. Donc, ils ont fait les tests. Elle a dit, bon, l'enfant entend, il n'y a pas de problème. Donc, elle nous a donné une série d'analyses à faire. Donc, on a fait l'audiométrie objective. On est parti voir un psychomotricien. On allait voir un psychologue, un orthophoniste. Et c'est après ces 4 spécialistes, on dit d'aller voir un pédopsychiatre. Et c'est le pédopsychiatre qui a fait un test avec un éducateur spécialisé. Et c'est après ces tests qu'ils ont diagnostiqué l'autisme de l'enfant. Le test est tellement facile. Il faut dire que l'enfant même souffrait devant nous, mais par ignorance, on a négligé. Les tests, c'était quoi? Les questions, c'était, est-ce que l'enfant, lorsqu'il prend les marches, comment il prend les marches? Normalement, un enfant à 2 ans, quand il prend les marches, il prend une marche. Par contre, pour la personne autiste, à cause du côté motricité, quand il prend les marches, il met un pied, il rejoint l'autre pied, les deux pieds sur une même marche, ensuite de suite. Or, à 2 ans, ce n'est pas normal. Il y a ça. Il y a aussi comment il tient la cuillère ou bien comment il tient un objet. Il a la motricité fine. Quand il tient un objet, c'est comme si c'était chaud. Mmh. Donc, c'est les signes de l'autisme. Aussi, l'enfant, il n'a pas peur de hauteur. Tout de suite, il voit une table, il monte sur la table, il peut sauter. Toi, tu es là, tu as peur, mais lui, il n'a pas du tout peur. Et il y a aussi les Lego avec lesquels les enfants jouent. Il a du mal à emboîter les Lego. On tombe à 2 ans, à 1 an, d'abord, mais un enfant, il le fait facilement. Lui, il avait du mal. Et aussi, il aimait se boucher les oreilles. Lorsqu'il y a trop de bruit, il se bouche les oreilles. Nous, on trouvait ça mignon. En temps, c'était des signes de l'autisme qui étaient devant nous.
Donc, il y a eu des tests
sur le quotidien
de l'enfant.
Voilà.
Des signes, des indicateurs qui mettaient en avant, en lumière, on dira, l'autisme véritablement. On va aller avec Nicole. elle avec nous au téléphone pour la même question. Nicole Gallo, vous êtes là?
Oui, je suis toujours là.
Alors Nicole, votre enfant est également autiste, vous nous avez dit. Et vous, à votre niveau, à quel âge est-ce que vous détectez cela et quelle a été votre réaction quand vous avez appris que l'enfant était autiste?
Merci pour la question. Il faut dire que parmi mes enfants, aucun n'a eu le trouble de développement. J'étais choquée. Je ne comprenais pas. C'est même pas moi qui ai remarqué les symptômes de l'enfant. On a rendu visite à une amie qui, elle a fait la formation, elle a fait les études en médecine. Et quand elle voyait que l'enfant sautait sur les tables ou sur les meubles de sa maison, elle a observé et elle m'a appelé de côté. Elle m'a dit, Nicole, ce que je vais te dire, ne te fâche pas. Faut pas, ça va te choquer. Quand je regarde l'enfant, on dirait qu'il a l'autisme. C'était la première fois d'entendre ce mot depuis que je suis née. Donc, moi, paniquée, parce que au moment où elle me disait que ne te fâche pas, je me suis dit que c'est quelque chose de grave. Si elle me dit que ne te fâche pas, ne te choque pas, mais ça m'a choqué d'une part. Donc je me suis dit, mais l'autisme, c'est quoi? Si elle me dit de cette façon, c'est que c'est grave. Donc je ne l'ai pas lâché. J'ai dit, dis-moi en même temps ce qu'il y a. Elle me dit, si tu arrives à la maison, va sur Google, essaie de taper sur Google l'autisme et vois les symptômes qu'on part au mouvement de l'enfant. Et c'est ainsi que j'ai remarqué. Et quand l'enfant a commencé à aller à la petite enfance, à l'école, à la maternelle, les maîtresses se plaignaient. Et c'est comme ça que j'ai pris la chose en main et on m'a orientée. Comme nous vivons dans un pays anglophone, donc j'ai pris l'enfant, on m'a orientée vers des médecins qui m'ont donné des rendez-vous. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire le suivi de mon enfant.
L'enfant avait quel âge?
L'enfant avait... Il faut dire que mes enfants ne parlent pas tôt. Donc, je me suis dit que c'était un retard. Voilà. Donc, l'enfant avait entre 3 ans et 4 ans.
Et aujourd'hui, il en a combien?
Aujourd'hui, il a 11 ans.
Aujourd'hui, il a 11 ans. Et vous parliez de cette histoire-là avec votre ami médecin qui découvre des signes de l'autisme chez l'enfant. Et c'est ainsi que vous croisez le chemin de l'autisme.
Oui.
Et vous avez écrit un livre là-dessus.
Exactement.
Et c'est ce que vous décrivez dans ce livre-là.
Ce que j'ai vécu, de la manière que j'ai connu l'autisme, et ce que j'ai vécu, mes angoisses, l'angoisse de l'enfant, les humiliations, les frustrations, en tout cas mon quotidien avec l'autisme, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Ma dépression et tout ça. En fait, j'ai écrit ce livre pour pouvoir excusez-moi, les mots me manquent. Mm-hmm. Je suis tellement que... pour pouvoir m'exprimer, faire sortir ce que je ressentais. En fait, au lieu de rester dans mon cocon, j'ai voulu exprimer ce que je vivais avec ce trouble autistique.
D'accord. Vous vivez dans un pays anglophone, c'est en Europe, c'est ça?
Oui, nous vivons en Angleterre.
En Angleterre.
Précisément à Londres.
Voilà, on va voir deux approches. Hein. Voilà, on a une maman vivant ici en Côte d'Ivoire, maman d'un enfant autiste, et vous, maman d'un enfant autiste, mais qui vivait en Europe. Et on verra au cours de l'émission, comment est-ce que ce trouble de développement est pris en charge dans les différents pays, et ça nous permettra d'avoir une lecture plus globale. Alors, on revient à notre éducateur spécialisé, Biekwa Kwasi Gérard. Vous avez entendu justement ces témoignages-là de ces deux mères. Avec des enfants autistes, vous en voyez fréquemment, vous les aidez, vous les accompagnez, et votre regard justement sur ce que vous venez d'entendre et comment vous vivez cela au quotidien.
Je crois que elles sont dans la mouvance de ce que vit leur enfant et leurs actions sont allouées parce qu'elles ne restent pas dans le déni. Bon nombre de familles sont dans le déni. Et ça pose problème à la rééducation de leurs enfants, à l'action pour sortir leurs enfants de cette situation. Et je crois que chaque État a sa manière de fonctionner. Ici, en Côte d'Ivoire, il faudrait savoir que le système national permet une bonne formation à nous, en Côte d'Ivoire, ce qui fait que je suis ce que je suis. Mmh. Et nous sortons de l'Institut de formation, l'Institut national supérieur de formation sociale, l'INFES de Côte d'Ivoire. C'est de là que sont formés les éducateurs spécialisés, voilà, qui travaillent dans ce domaine-là. Mais aussi, il faudrait que nous puissions savoir que tout éducateur spécialisé n'est pas forcément un spécialiste du handicap, parce qu'il faut se performer pour être capable d'apporter une réponse à ces besoins-là. Au regard de ce qu'elles ont pu dire, je dirais que l'autisme se manifeste principalement par une altération des des interactions sociales et aussi de la communication. Mmh. Parce que tout à l'heure, vous demandez comment est-ce qu'elles ont pu détecter cela. On peut détecter l'autisme chez un enfant avant l'âge de 3 ans. Voilà. Dans le développement de l'homme, il faudrait savoir qu'il y a des stades. Il y a le stade oral, le stade anal, le stade phallique, le stade de latence et le stade, les autres stades qui suivent. Mm-hmm. Mais ces stades qui sont les stades de la petite enfance au stade oral, pour dire entre 0 et 12 mois, ce n'est pas vraiment trop perceptible.
Dans l'oral, on entend le langage. Vocal.
Le stade oral, l'enfant fait du babillonnage.
Okay.
Il dit beaucoup de choses sans rien dire. Voilà. Quand l'enfant manque de ça, déjà, c'est un symptôme. Voilà, parce que pour une personne profane, on parlera de symptômes. Mais pour le regard du spécialiste, on parlera de signes. Et voilà, je vais en venir. Mais déjà, il y a des symptômes qu'on peut constater pour voir si l'enfant n'a pas des traits de l'autisme en lui. Donc, le babillage n'est pas là. Puisqu'on parle des interactions sociales et de communication, c'est que le petit enfant, à un certain stade de sa vie, doit accomplir, il ne le fait pas. Et donc, le parent doit être plus attentionné pour voir réellement si mon enfant évolue bien. Mmh. Il y a des enfants qui peuvent émettre du retard dans leur progression de développement. Ça peut arriver. Mais quand c'est récurrent, il faut commencer tout de suite à se poser des questions. Est-ce que mon enfant ne vit pas un trouble? Parce que de façon psychologique, le stade de développement sont identiques en l'homme. L'enfant va faire les quatre pattes à un moment donné, va commencer à marcher, va commencer à s'exprimer tout doucement. Quand il va atteindre 2 ans, le langage va commencer, le langage par les mots vont commencer. Mais quand ça ne vient pas, il y a un souci. Donc voilà un peu. Et au niveau des signes et symptômes, on peut parler de l'absence du babillonnage, comme j'ai dit. L'enfant, les bruits que l'enfant fait sans rien dire là. L'enfant autiste n'est pas capable de pouvoir faire ça lorsqu'il est dans le premier stade de développement, le stade oral. Il n'est pas capable de faire ça. Maintenant, quand il arrive même dans le stade anal, qui est entre 1 an et 3 ans, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas parce qu'il y a des zones érogènes. Donc, ces stades de départ, à ces niveaux-là, le parent doit être regardant sur l'enfant pour voir si l'enfant n'émet pas des actions communicatives ou si l'enfant ne réagit pas comme les autres enfants. Ça doit l'alerter à voir, à tourner son regard vers les personnes plus expérimentées pour qu'ils puissent avoir un regard sur leur enfant.
Est-ce qu'il y a une préparation qui peut exister à l'endroit des parents, des familles? Ça, c'est en termes d'action que vous menez.
Oh oui.
Pour amener les parents, par exemple, à... Parce que là, dans les témoignages, on notait parfois qu'il y avait un choc quand on apprenait que l'enfant est autiste. Dans un premier temps... ça choque, n'est-ce pas? Yapi, Liliane, vous avez été choquée?
Au-delà même du mot choquée,
ouais.
J'étais vraiment choquée. C'est comme si le monde s'écroulait sur moi. J'étais assise comme ça, je n'avais pas de mots, j'étais comme hypnotisée. Et
vous vous demandez, mais pourquoi?
Je me demande, mais qu'est-ce que c'est même?
Qu'est-ce
en fait
que c'est?
Bon, autisme, qu'est-ce que... On va dire, peut-être pas lu la grippe, on peut comprendre, mais autisme. Donc, ce qui veut dire, on a fait pratiquement 4 à 5 mois avant d'avoir ce résultat-là. Donc, si on a fait tout ce processus et aujourd'hui, on nous dit que c'est autisme, c'est que c'est quelque chose de grave. Et là, je reste comme hypnotisée et c'est un mot du pédo qui m'a vraiment réveillée. Il a dit, vous connaissez Lionel Messi? Là, j'ai dit, bah, mais qu'est-ce que Lionel Messi a à voir avec ce que tu es en train de dire? Et il dit, Lionel Messi, il est autiste. Hein? Il dit, oui, allez sur Google, vous verrez, il y a d'autres scientifiques, il y a d'autres stars qui sont autistes. Allez et vous verrez que ce que votre enfant a n'est pas aussi grave. Avec une bonne rééducation, il pourra s'intégrer et tout ira bien. Soyez confiants, il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Votre enfant va sortir de cette situation. Et là, je commence à sourire.
Et l'espoir a commencé à revenir.
Voilà, voilà.
Nicole, vous avez aussi été choquée, hein, vous l'avez dit. Et est-ce que vous étiez... Bon, c'était la première fois pour vous d'entendre ce mot-là, autisme, de savoir que c'est... Votre enfant porte, on dira, ce trouble de développement. Revenons sur cette étape-là, quand vous avez appris justement que l'enfant était autiste.
Oui, j'ai été choquée. Après, il faut se ressaisir.
Oui.
Il faut accepter. La première chose, c'est l'acceptance d'abord. Si tu acceptes, c'est c'est là maintenant que tu t'engages véritablement pour trouver une solution. Mais si tu refuses, tu n'acceptes pas, alors que la réalité est à côté de toi, l'enfant est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Non, la première chose, c'est l'acceptant d'abord. Oui, j'accepte que mon enfant a l'autisme. Qu'est-ce que je fais pour l'aider, pour atténuer, pour diminuer ses crises, pour affronter le regard des autres, pour sortir avec mon enfant, pour ne pas que le sensoriel, le niveau sensoriel s'agrandisse. Il faut que le niveau sensoriel diminue. Il faut qu'il accepte le monde qu'il va affronter. Voilà le combat. En l'acceptant d'abord. Après, je me suis ressaisie et j'ai accepté. J'ai dit oui, mon enfant a l'autisme. Bon, je me suis mis dans les recherches. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, pour moi, j'étais seule à voir ce cas-là. Mais quand je me suis mise dans les recherches, j'ai vu qu'il y avait des célébrités. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont vécu le cas de l'autisme. Donc, ça m'a encore donné la force, le courage, la foi surtout. Voilà. Donc, la première chose, c'est l'acceptance.
Et il y a aussi votre responsabilité en tant qu'éducateur spécialisé. Mmh. Et moi, j'avais posé la question même beaucoup plus en amont, avant que des familles donnent naissance à des enfants, puisque dans votre travail au quotidien, il y a l'accompagnement aussi sûrement des familles, de l'éducation des enfants. Et est-ce qu'il y a ce langage-là, par exemple, d'accepter certaines situations ou d'expliquer certains troubles de développement tels que l'autisme, pour que les parents, dès que ça arrive, plus ou moins, ils soient informés. Il faut vraiment beaucoup de sensibilisation, je pense.
Oui, exactement.
Ouais.
Et il faudrait qu'on puisse travailler beaucoup dans le domaine de la sensibilisation.
Ouais.
Et aussi mener des actions préventives en informant les parents, surtout nos mères quand elles vont dans les centres de santé. C'est pourquoi il y a des spécialistes dans les centres de santé.
Okay.
Il faut souvent consulter ces spécialistes-là au niveau des centres de santé. Quand les mamans vont dans les centres de santé, demandez souvent s'il n'y a pas des éducateurs spécialisés là. Voilà. Le service social, là, le service de santé, là, a en son sein des éducateurs spécialisés pour beaucoup de structures ici en Côte d'Ivoire.
Mmh.
Et donc, il faut s'approcher de ce service-là dans le centre de santé pour avoir des orientations au niveau prénatal pour que, après la naissance, en tant que parent, vous ayez un peu des éléments pour suivre un peu l'évolution de votre enfant. Parce que aussi, si demain vous constatez que votre enfant ne marche pas comme il se doit, parce qu'il peut avoir un problème psychomoteur, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les médias? Parce que des actions peuvent être menées en amont pour pouvoir corriger rapidement le problème de l'enfant. J'ai été aussi en face avec des enfants en situation de psychomoteur et ça a été réparé très tôt. Voilà. Donc, comme on le dit, c'est un handicap. C'est un retard. Dans le cas de l'autiste, c'est un retard. Il a un retard sur les autres, mais ce n'est pas un idiot. Mmh. Comme vous l'avez entendu dire par cette maman tout à l'heure, et comme les psychopathologues ont pu le dire aussi à ces moments-là, regardez les célébrités qui sont dans cette situation. Ils ont connu un retard de fonctionnement, de développement, mais ça ne les a pas empêchés d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils sont des personnes qu'on veut imiter, qu'on souhaite que nos enfants puissent imiter. Mais à la base, ils n'étaient pas ce que nous savons aujourd'hui d'eux.
Mmh.
Et donc, dès les premiers instants, il faut faire face à cette situation et ne pas vivre dans le déni. Mais aussi, il y a des mesures qui doivent accompagner ses parents.
Oui.
Pour que ses parents ne puissent pas se sentir abattus. Et ça, c'est à la responsabilité de nos structures aussi de santé qui, par moment, font, à travers le service social, font la sensibilisation. Lorsque les femmes viennent pour les informations sur les différents vaccins à faire, il faut qu'on introduise aussi ce volet-là. Parler à ces mères-là, solliciter les spécialistes dans la prise en charge de l'enfant pour sensibiliser ces mères-là, pour qu'elles puissent avoir un bon suivi de leur enfant. Parce qu'on peut faire la détection quand l'enfant est tout petit, avant l'âge de 3 ans, mais ça peut se révéler même après 3 ans. Certaines personnes disent « Ah, moi, mon enfant commençait à parler, puis à un moment donné, il ne parle plus. » Il y a ces cas de figure qui sont là, que nous avons beaucoup rencontrés. Donc, mais comment tu peux comprendre ces choses si, en amont, tu n'avais pas déjà entendu des informations dans ce sens que voilà ce qu'il faut faire quand tu constates que ton enfant ne parle pas à un certain âge.
Oui. Voilà. Et au-delà de la question de la prise en charge, hein, c'est très important. On pourra aussi évoquer, en ce qui concerne les populations en zone rurale, les populations les plus vulnérables, hein, les populations qui vivent dans la précarité, qui n'ont pas forcément cette chance-là de voir au jour le jour des éducateurs spécialisés. Et quand un enfant autiste arrive dans la famille, il y a la pesanteur culturelle aussi, exactement, traditionnelle, qui peut agir dans certaines traditions. D'aucuns diront, mais c'est un sorcier, voilà, c'est pas un enfant normal. Ça arrive, non, Liliane Yapi?
Exactement, oui. ça arrive.
Mais c'est récurrent, c'est des choses qui existent. Et vers ces personnes-là, ces populations-là, qu'est-ce qui peut être fait?
C'est d'abord leur dire que c'est normal. Bon, c'est la nature, hein, c'est la nature qui décide. Donc, si nous ne sommes pas des enfants, très souvent, on dit que ce sont des enfants serpents.
Oui, enfants serpents.
Enfants serpents. Donc, ce ne sont pas des enfants serpents, ce sont des enfants à accompagner. Et les gens n'ont pas l'information. Vu qu'ils n'ont pas l'information, tout de suite, quand ils voient un enfant qui est dans cet état, c'est tu as une malédiction, ou même, souvent, le couple, même chacun, et on voit des pics à l'autre, comme quoi dans ma famille il n'y a pas ça, c'est chez toi, c'est quitté. Donc il y a tellement, on est tellement ignorant, on va dire c'est l'ignorance qui fait. Donc aujourd'hui c'est de pouvoir dire aux gens, l'autisme existe, ou bien il y a des certains handicaps qui existent de manière naturelle. C'est vrai, on est en Afrique, il y a des choses qui peuvent arriver, mais d'abord il y a la science qui est là également, et qu'on peut accompagner ces enfants-là à vraiment s'intégrer, à avoir la santé et autres. Donc. Mmh,
mmh. Voilà, on repart avec Nicole également sur cette question-là. Alors Nicole, vous êtes là?
Oui, je suis toujours là.
Voilà. Et vous, au niveau de l'Angleterre, comment est-ce que vous avez entamé le suivi ou la prise en charge de votre fils, Nicole Gallo?
Dès que l'enfant commence la maternelle, parce que dans chaque établissement en Angleterre, il y a des éducateurs spéciaux dans les établissements. Donc, quand il y a un enfant, voilà, qu'on les appelle les cinq cours. Donc, quand il y a un enfant qui a, on remarque qu'il y a un enfant qui est turbulent, qui est agressif, qui est violent, tout de suite, il est détecté. Quand l'enfant est détecté, on appelle le parent. Et ça a été le cas, comme je l'ai dit, à la maternelle, il était un peu agressif et tout ça. Donc, on m'a appelé. C'était un peu choquant, mais après, c'est rentré dans l'ordre. Donc, ils m'ont orienté. Je suis allée voir le généraliste qui m'a orienté, lui, à son tour. Donc, on a fait le diagnostic pour voir vraiment si c'était l'autisme. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux cas. Peut-être que l'enfant, il était hyperactif, simplement. Parce que dans l'autisme, il y a l'hyperactivité. Donc, pour les éducateurs à l'école primaire, ils ont pensé que l'enfant était juste hyperactif parce qu'il ne restait pas tranquille. Donc, ils ont voulu approfondir pour voir par le diagnostic. Donc, on a fait le diagnostic. Et au bout de quatre semaines, le diagnostic est tombé et c'était l'autisme. Voilà, et c'est comme ça qu'après le diagnostic, on a commencé les thérapies, les suivis et autres. On m'a proposé de l'orienter, soit il y avait deux cas, dans une école spécialisée, ou soit il restait dans l'école primaire où il était, et on faisait venir quelqu'un pour lui faire un one-to-one, c'est-à-dire un enseignant à lui seul.
Mmh. Ouais, voilà. Il y avait la possibilité de faire ça dans l'école normale générale.
Voilà, dans l'école normale générale, on pouvait envoyer un enseignant qui allait venir faire le face-à-face avec lui, de one-to-one, pour plus l'aider. Donc, l'école a décidé ensemble que comme le niveau sensoriel était trop et qu'il n'y avait pas tout dans l'école, il fallait l'amener dans une école spécialisée où il y a tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et jusque-là, voilà, il est là-bas.
D'accord. Alors, on va souffler un peu en musique. On va écouter à nouveau Grand Corps Malade qui nous chante Handicapé. Et puis, vous restez avec nous en ligne, hein, Nicole Gallo. Et puis, on revient juste après le top horaire pour la suite des échanges et pour conclure l'émission.
Mmh.
nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y'a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange.
Radio de la Paix, il est 11h.
Vous faites bien d'être sur Radio de la Paix, vous suivez sujet de discussion et aujourd'hui on parle de l'autisme et il faudrait le rappeler, l'autisme n'est pas une maladie, l'autisme est un handicap, c'est un trouble de développement. Et pour échanger, nous sommes en studio ici avec Liliane Yapi, elle est à la tête d'une ONG, mais mère d'un enfant autiste et l'ONG s'appelle Je suis toi. Voilà, elle nous donne aussi son expérience. Et puis au téléphone, Nicole Gallo, également à la tête de l'ONG Sillon d'Espoir et aussi auteur du livre Quand mon chemin croise l'autisme. Et puis nous avons la grâce d'avoir un spécialiste qui suit des enfants autistes et qui mène beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Il est avec nous également, Biekwa Kwasi Gérard. Alors, chers invités, c'est le dernier tour de table, on dira, et puis aussi le passage de téléphone pour Nicole Gallo qui est avec nous en ligne. On parlait là, elle évoquait un point au niveau de l'école. Comment se fait l'accompagnement et le suivi de ces enfants-là? Avant de donner la parole à Gérard, vous, Yapi, Liliane, votre enfant, il a quel âge aujourd'hui?
Il a 3 ans et demi.
Il a 3 ans et demi. Il ne va pas encore à l'école.
Si, si, il va à l'école.
À la maternelle.
À la maternelle.
Alors, comment ça se passe?
Déjà, même, quand on a commencé le processus, il était déjà à l'école.
Oui.
Parce qu'on l'a vite envoyé à l'école. Parce qu'on s'est dit, le retard de langage est dû au fait qu'il n'est pas en contact avec d'autres enfants. Donc, déjà, à 2 ans, il était à l'école. Il faut dire aussi que l'école nous a interpellés. Par rapport à l'hyperactivité, il sortait tout le temps de la classe, tout le temps, il s'asseyait pas, tout il bougeait, il chantait, tout ça. Donc, tout de suite, on leur a dit, bon, nous avons entamé un processus, quand on aura le diagnostic, on viendra vers vous. Et aujourd'hui, il est en petite section. On travaille encore plus sur la concentration, parce qu'il est beaucoup distrait, il est hyperactif, il sort un peu trop. C'est vrai que dans sa classe, il y a une éducatrice spécialisée, mais en même temps, il y a un peu les enfants autistes ils sont 3 enfants autistes dans une classe. Pour une éducatrice spécialisée, c'est énorme. Je pense que c'est énorme parce que nous-mêmes, un seul enfant, c'est compliqué. Donc, une éducatrice spécialisée pour 3 enfants, c'est vraiment énorme. C'est vrai qu'il y a 2 éducatrices préscolaires, mais je ne pense pas que, à ce niveau aussi, on va demander à l'État d'affecter beaucoup d'éducateurs spécialisés et aussi demander aux collègues de M. Gérard de s'intéresser à ce volet-là aussi, qui s'intéresse au volet accompagnement aussi, parce qu'apparemment, ils ne sont pas nombreux.
Oui.
Pourquoi ils ne sont pas nombreux? Est-ce que c'est épuisant pour ceux qui gagnent? Ou bien ça demande beaucoup de recherche. Il y a quel problème? Donc, on leur demande vraiment.
C'est une belle question à Gérard. Alors, Gérard Kwasi, Elle a posé une très belle question.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont spécialisées pour suivre les enfants autistes? Alors, on vous laisse la parole.
Merci beaucoup, cher ami. Et pour ce que je peux dire, commençant par le délai pour qu'elle a abordé, et c'est aussi quel est l'intérêt? L'intérêt de ces personnes qui sont dans ce domaine. Mmh. Comme je l'ai dit, le champ de l'éducation spécialisée est vaste. Il est vaste et peu s'intéressent à ce volet. Mais je pense qu'il faut des mesures d'accompagnement qui permettront aux spécialistes formés à l'Institut de formation
sociale.
C'est quoi
comme mesures d'accompagnement?
Quand il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il faut des motivations.
Comme quoi?
Bon, ça peut être des motivations financières.
Mmh.
Ça peut aussi être les conditions de travail. Parce que apparemment, les conditions de travail demandent beaucoup de choses. Quand nous regardons un peu et nos collègues qui sont de l'autre côté en Occident, on n'est pas dans les mêmes conditions de travail. Et véritablement, le matériel est un peu, coûte un peu cher. Et par moments, les structures n'ayant pas les moyens, ils demandent à ce que les parents puissent apporter une contribution. Or déjà, certains parents n'ont pas de moyens. Ils ont d'abord des difficultés à faire les examens, les analyses médicaux pour leurs enfants. Et il faut encore payer du matériel. Donc c'est un peu difficile. Si l'État peut avoir des mesures d'accompagnement pour permettre à ce que là où ces spécialistes sont, des moyens soient là en matière de matériel, ça aiderait à faire un bon travail. Et maintenant, concernant cet aspect, parlant de la prise en charge en tant que telle, mm-hmm. dans le milieu, il faudrait dire que pour une école normale, il est nécessaire qu'il y ait un spécialiste dans cette structure, comme on le fait de l'autre côté. Mmh. On n'est pas nombreux, c'est un défaut plutôt. Il faut que d'autres personnes puissent aimer ce corps de métier et venir nous suivre. Mmh. Mais aussi, il faut dire que c'est la passion.
Et est-ce que vous, il vous arrive de partager cette passion-là des plus jeunes à travers des masterclass, des rencontres dans les écoles, les universités? Parce que tout ça, ça peut créer, susciter la vocation.
Bon, effectivement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire en tant que tel. Bon, j'ai une autre casquette, je suis homme de Dieu.
Ouais.
Voilà, et par moment, et je pourrais dire que c'est ce qui m'a motivé parce que nous travaillons en général sur l'homme. Nous œuvrons dans la vie des hommes et tout ce qui touche l'homme me touche. Et donc c'est dans le processus de prise en charge que certaines personnes me découvrent et maintenant ils sont intéressés, même des collègues qui sont en train d'apprendre avec moi et des personnes qui ne sont pas dans le domaine qui ont décidé de se mettre à cause de la manière dont ils me voient faire le travail.
Ouais.
Et donc je pense que c'est en train de venir, mais je pense aussi que votre radio est une lucarne pour que les gens puissent savoir ce que nous faisons dans le secret.
Ouais,
nous sommes nombreux comme ça, mais on n'a pas de porte-voix comme votre radio qui nous donne cette opportunité aujourd'hui.
Ouais.
Mais je pense que c'est en train de venir.
C'est
parce qu'aujourd'hui, l'opportunité nous a été donnée.
En tout cas, on restera dans cette lancée. Puis, notre objectif, c'est que ce travail soit efficient et qu'il puisse impacter au maximum la communauté dans tout son ensemble. Exactement. Et même celle qui se trouve en zone rurale, dans les difficultés, les populations très vulnérables également. Et merci d'être passé. C'était Gérard Kouassi, qui est éducateur spécialisé et qui est très porté sur le suivi des enfants atteints d'autisme. Et puis nous avons également eu Liliane Yapi à la tête de l'ONG Je suis toi. Voilà, également maman d'un enfant autiste. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup d'espoir, hein, Liliane.
Oui, effectivement.
Merci d'être passé.
Merci.
Et au téléphone,
vous.
On était avec Nicole Gallo, voilà, qui est présidente de l'ONG Sillon d'espoir et également auteur du livre « Quand mon chemin croise l'autisme ». Merci et restez à l'écoute de Radio de la Paix.